En début de cette année, peut-être certains qui sont nos abonnés fidèles, une campagne de 3 ans de prière pour ce qu'on appelle les chrétiens de l'ombre. Les chrétiens de l'ombre, c'est ces chrétiens d'origine musulmane qui n'osent pas trop dire à leur famille, à leurs proches, qu'ils se sont tournés vers le Christ. Ils gardent ça en secret. Et cette campagne de prière, bien, un de nos collègues qui a été 10 ans missionnaire en Côte d'Ivoire nous a dit, mais nous, on se réunissait le vendredi à midi, pendant que tous les autres allaient à la mosquée, discrètement, on faisait des petits groupes comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas le vendredi à midi pour ces chrétiens de l'ombre? Alors, on a saisi son idée au bon, saisi la balle au bon, et on vous encourage à vous joindre à cette campagne de prière. Cette campagne de prière est aussi née avec ce livre, Chrétien de l'ombre, que vous trouverez à la sortie. Je fais juste un petit peu de pub. Et la première fois que j'ai vu le dernier livre de Frère André qui parle justement de ces chrétiens d'origine musulmane qui petit à petit découvrent en Jésus leur sauveur et qui, très souvent pour eux, ce n'est pas un changement radical comme ça, une conversion nuit-jour, j'allais dire jour-nuit, mais c'est nuit-jour, c'est une conversion progressive. D'abord, on apprend à connaître le Christ. En quelque sorte, on l'ajoute. Et puis, petit à petit, ces deux chemins qui s'éloignent peu à peu l'un de l'autre. Et il arrive un moment où on dit, mais je ne peux plus être avec un pied sur le chemin de gauche et un autre sur le chemin de droite. Il faut que je prenne une décision. Mais lorsque j'ai entendu parler de ce nom chrétien de l'ombre, j'ai immédiatement vu une image d'un événement qui s'est passé ici à Genève en 1995. Peut-être que certains d'entre vous y étaient, on avait passé notre nouveau film de l'époque, Derrière le soleil. C'était dans un grand centre, un centre où il y a un centre de formation pour apprentis, etc. Il y a une grande aula, et il y avait 2 soirées de suite, ce film. Et puis, après le film, il y avait des temps de questions. Et comme il y avait eu une distribution massive par un de nos volontaires, là, qui avait fait beaucoup de zèle, de prospectus pour inviter, il avait placardé des affiches dans tout Genève, bien évidemment, il y avait 20aine de personnes de la mosquée qui étaient là le premier soir. Et puis, autant de questions, bien entendu, ils ont monopolisé le micro, donnant toutes sortes d'affirmations. Et puis, de temps en temps, vous avez envie de leur dire, mais, et puis, votre question, c'est quoi? On reste poli, mais sans rien non plus lâcher du fond du message. Et puis, j'avais devant moi tout cet auditoire, 250 personnes, 2 soirs de suite. Et puis, pendant le temps de questions, c'était éclairé. Bien sûr, pendant le temps de film, on a sombré, et pendant le temps de questions, on éclaire. Mais les lumières n'allaient pas tout à fait jusqu'en haut. Les 2 derniers rangs restaient dans le sombre. Je voyais bien qu'il y avait en haut des gens qui restaient comme ça dans l'ombre, qui ne se sont pas manifestés autant de questions, mais je sentais que ça bouillait intérieurement. Et à la fin, plusieurs d'entre eux sont venus vers moi. C'était des chrétiens d'origine nord-africaine pour la plupart, certains du Maroc, d'autres d'Algérie. Et ils m'ont dit, merci, vous avez tellement bien décrit ce qu'on vit. Mais même face à ces gens de la mosquée qui étaient en bas, qui monopolisaient la parole, ils n'auraient pas osé se lever pour dire, moi, j'étais musulman, je suis devenu chrétien. Trop dangereux. Ici à Genève. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes abonnés à la revue, au magazine hebdomadaire L'Écho Magazine. C'est plutôt d'origine catholique, mais enfin écrit par des catholiques. Mais ça s'adresse à tout un chacun. Et au mois d'octobre passé, ils avaient justement, par hasard, entre guillemets, 5 pages d'articles sur ces chrétiens d'origine musulmane en Suisse. Et il y en avait qui expliquaient comment ils n'avaient rien dit à leur famille ici en Suisse. D'autres qui expliquaient comment la seule personne qui le savait, c'était la cousine au Maroc, mais que c'était trop dangereux de dire ici ce qui se passait. D'autres qui expliquaient comment ils arrivaient 5 minutes après le début du culte et ils repartaient toujours 5 minutes avant, de peur qu'on leur pose des questions. Et un ajoutait même cette phrase nous disant, l'ombre nous convient très bien. Donc, voyez qu'on est en plein dans le sujet. Et j'ai pensé ce matin à vous parler un petit peu de ce que vivent ces frères et sœurs, ces chrétiens de l'ombre. Mais pour être très pratique, pendant ce temps de partage, c'est pas vraiment une prédication au sens strict du terme, c'est plutôt un partage d'expérience. Il y aura quand même la lecture de la parole, je vous rassure. Je vais faire circuler des listes dans lesquelles je vous invite, premièrement, c'est la dernière des croix que vous pouvez cocher, mais c'est, je vous invite à vous joindre à cette campagne de prière. Il y en a déjà presque 500 en Suisse qui ont dit « Oui, je veux prier chaque vendredi midi pour ces chrétiens de l'ombre ». Eh ben, j'espère qu'on sera 580 à la fin de la journée. Vous avez compris ce que je veux dire. Je vous invite à vous joindre à cette campagne si vous ne l'avez pas déjà fait. Concrètement, ça veut dire que vous recevez une fois par mois un email. Donc, notez votre adresse email avec des nouvelles pour prier pour chaque vendredi. Mais vous avez aussi la possibilité avec cette liste à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, à ce magazine mensuel. Ça, c'est plus généraliste, on va dire. Et ce magazine-là, on vous l'envoie aussi volontiers. Il y a des sujets là de prière pour chaque jour, pour vraiment le monde entier, pas seulement les chrétiens de l'ombre. Et puis, vous verrez, il y a aussi la possibilité de recevoir un CD 3 fois par année. Je suis en train de préparer ce CD. CD, c'est un CD audio. C'est fait comme une émission radio. Ça dure environ 40 minutes avec des chants, des témoignages, des reportages. Et puis ce CD, c'est aussi, il y a un bonus vidéo pour ceux qui ont l'ordinateur. Et je peux déjà vous dire que le prochain bonus, celui qui va sortir pour le mois de mai, fin avril, eh bien, il y a le témoignage d'Hélène Béran. Pour nos fidèles abonnés, ça veut dire quelque chose. C'est cette chanteuse de gospel en Érythrée qui a été enfermée pendant 2 ans et demi, non seulement dans un camp qu'on pourrait comparer à un camp de concentration, mais on les met dans des containers. Et vraiment sans exagérer, ni dans un sens ni dans l'autre, mais elle décrit sa vie dans cette prison, ce qu'elle a dû subir, au fond, pour la cause de l'Évangile. Et c'était pas quelqu'un qui était en prison parce qu'il a fait du mal ou parce qu'il se soumet pas aux autorités, c'est vraiment quelqu'un qui était en prison, dans ses camps, dans ses containers, parce qu'elle a voulu annoncer l'Évangile. Et ils en sont arrivés, ils voulaient absolument la briser physiquement, pour qu'elle se taise. Et elle en est arrivée à dire à son bourreau, « Vous, votre job, c'est de faire que je ne parle pas. Moi, mon job, je parlerai de l'Évangile. » On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il faudra arriver au point. Et ils sont allés tellement loin dans la torture qu'elle était incapable de marcher. Et quand ils ont cru qu'elle allait mourir, elle était quand même connue en Érythrée. Et bien, ils se sont dépêchés de la sortir pour la mettre à l'hôpital. À l'hôpital, ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Ils l'ont ramenée chez ses parents en se disant « Elle va mourir à la maison, ce sera la faute aux parents. » Et en fait, elle s'est échappée au Soudan et là, elle a obtenu l'asile politique. Elle est maintenant au Danemark. C'est un témoignage bouleversant qui dure 7-8 minutes et qui est... Je vous recommande. Chrétien de l'ombre. Une de mes amies, il y a quelque temps, m'avait posé la question, mais au fond, avec tous les problèmes qu'on crée aux musulmans qui se convertissent, est-ce qu'on a le droit de leur annoncer l'Évangile? Alors, en tant que chrétien évangélique, on dit, mais comment oses-tu poser la question? Et puis, si on est doué d'un tant soit peu de la compassion qui était en Jésus, c'est dire, mais effectivement, on leur crée des problèmes. Est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Et au fond, moi, j'ai renversé un tout petit peu la question, en se disant, mais s'il y a tellement de chrétiens, ou disons de musulmans qui se convertissent au christianisme, ou de chrétiens d'origine musulmane, s'il y en a tellement, et qu'ils ont tellement de problèmes, c'est qu'ils doivent bien avoir reçu quelque chose qui vaut plus que tous les problèmes, toutes les difficultés qu'ils éprouvent. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous lire deux passages. Le premier passage se trouve dans le prologue de l'évangile de Jean. On va lire depuis Jean 1, depuis le verset 9 jusqu'au verset 14. Ce prologue de l'évangile de Jean qui nous rappelle que la parole, la lumière, Jésus, est venu dans le monde et que le monde ne l'a pas reçu. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique venu du Père. Et j'aimerais lire encore un deuxième passage qui va faire écho à ça. Au fond, ce premier passage nous dit « La lumière est venue dans le monde. » Elle n'est pas venue seulement en Israël ou seulement chez les chrétiens qui sont chrétiens de la troisième génération. Elle est venue pour tous et dans le monde entier. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'on vous rapporte. Vous savez que parfois on nous dit « Oh, à porte ouverte, vous rapportez que des mauvaises nouvelles. » La bonne nouvelle qu'on vous rapporte, c'est que dans le monde entier, dans toutes les nations, même dans le pays où l'Église est le plus persécutée, comme en Corée du Nord, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tournent, qui acceptent cette parole, qui acceptent Jésus-Christ, qui se tournent vers lui. Il y a aujourd'hui des gens qui se réunissent, même en prenant de grands risques. Parfois, on me pose la question, mais il y a combien de pays où l'Église ne peut pas se réunir librement? Je dis alors, il n'y en a aucun. Tout le monde peut se réunir librement, mais il accepte librement les conséquences de cette réunion. Si Paul avait dû écrire à propos des musulmans, il aurait écrit, je pense, exactement ce qu'il a écrit à propos de ses compatriotes juifs dans Romains 10. Les versets 1 à 4. Romains 10, 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, comme le dit la Tob, qu'ils parviennent au salut. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et je suis absolument persuadé que Paul aurait pu écrire ça à propos des musulmans, même si à l'époque les musulmans n'existaient pas. Parce que ce verset 3, quand il dit « Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu », c'est exactement ce que prétendent être les musulmans. Le mot « musulman » veut dire « celui qui est soumis ». Le mot « islam » veut dire « soumission ». Et quand ils vont à la mosquée et qu'on nous dit, voilà, ils ont fait leur prière et qu'on les voit se prosterner, en réalité, c'est pas une prière. Ils répètent, au fond, un credo. Je me soumets à Allah. D'accord? Et Paul dirait d'eux, comme il a dit de ses compatriotes juifs qui ne reconnaissaient pas le Christ, il a dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ
est la fin de la loi. Alors, pour en revenir à notre question du début, s'il y a beaucoup à perdre avant de voir tout ce qu'ils ont à perdre en devenant chrétiens, ces musulmans, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Eh bien, la première chose que cherche et que trouve un musulman qui cherche Christ, c'est la certitude du salut. Et cela, je l'ai découvert dans mon tout premier voyage dans le monde musulman, c'était en Algérie, j'ai croisé un pasteur d'origine musulmane qui nous a raconté comment il s'est converti. Ça faisait des années qu'il travaillait sur une mission chrétienne, comme on m'a tout fait, bien entendu, il n'était pas pasteur à ce moment-là. Et puis, il hébergeait à la maison son père, qui avait 80 ans, qui était sur son lit de mort, père musulman fidèle, qui avait fait le pèlerinage, qui depuis 60 ans, donc il avait 80 ans de l'âge, de 20 ans à 80 ans, n'avait jamais manqué, écoutez bien, jamais manqué les 5 prières par jour. Vous rendez compte, ce zèle, ce sérieux. Et sur son lit de mort, il demanda à son fils, et maintenant, il se passe quoi ? Maintenant, je vais où ? Et ce Kader de tout d'un coup réaliser, mais les chrétiens, quand ils meurent, eux, ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont. Et c'est ça qui l'a décidé à se tourner vers le Christ. Certitude du pardon aussi. Je pense à ce hadith, cet enseignement islamique qui raconte l'histoire de deux hommes. Un petit peu l'histoire, vous savez, du riche et puis de Lazare, le pauvre, hein, qui mangeait les miettes, qui aurait même voulu les miettes du riche. Et puis voilà, les deux meurent le même jour. Dans la Bible, eh bien, Lazare est au paradis et puis le riche se retrouve en enfer. Puis tout d'un coup, il veut devenir évangéliste pour évangéliser ses frères, qu'au moins eux n'allent pas dans ce lieu de tourment. Vous vous souvenez de ce passage ? Mais il y a un hadith qui est un petit peu la même chose, dans le sens où vous avez non pas un riche et un pauvre, mais un très religieux, très respectueux, qui meurt le même jour qu'un koufar, le païen fini, celui qui n'a jamais tenu compte d'aucun des enseignements du Coran. Et voilà que les deux se retrouvent pour se présenter aux portes du paradis, pour l'entrée. Et se présente d'abord le riche avec, il est riche aussi, mais avec toutes ses bonnes œuvres, toutes ses bonnes actions, tout ce qu'il a bien fait, etc. Et puis on est en train de soupeser son cas, est-ce que vraiment il peut entrer ou pas ? Bon, est-ce qu'il en a fait assez ? Vous savez, dans l'islam, c'est un système de balance, hein. Vous devez avoir fait plus de bonnes œuvres, mais vous ne savez pas combien les œuvres pèsent par rapport à vos mauvaises actions. Donc, il faut accumuler les bonnes œuvres dans l'espoir de faire pencher la balance du bon côté. Hein. Et puis voilà, on est en train de peser tout ça, puis ça aussi, de gauche, de droite. Et voilà qu'arrive ce koufar, et à lui, on déroule le tapis rouge, viens, entre. Et là, il comprend plus rien, il dit non, mais attends... Ça va pas comme ça, là. Tu sais pas qui je suis. Moi, regarde tout ce que j'ai fait. Puis alors, lui, avec tout ce qu'il a fait de mal, c'était connu au vu et sous tout le monde. Et ce hadith termine sur cette phrase. Qui es-tu, toi, pour venir me dire à moi, Allah, ce que j'ai à faire? Aucune certitude du pardon. Aucune certitude de la valeur des bonnes ou des mauvaises actions. Et c'est ce que tout être normalement constitué recherche, un Dieu fiable, un Dieu aussi qui nous écoute selon 1 Jean, la première lettre de Jean au chapitre 5. Lorsque nous prions, nous savons qu'il nous écoute, nous savons. Nous n'avons pas un Dieu au-delà des nuages bien trop occupé par sa grande gloire et sa grande sagesse. Oui, notre Dieu est glorieux et plein de sagesse. Mais en même temps, il est prêt à s'occuper de chacune de ses créatures comme s'il n'y avait qu'elle. Et c'est ça qu'on trouve en Jésus-Christ. Et ce même chapitre, ce même 1 Jean 5, verset 15, nous dit, nous savons qu'il nous écoute et on a la certitude d'avoir une réponse. Alors je vous l'accorde, elle n'est pas toujours celle qu'on aurait voulu. Si vous pensez faire de Dieu votre marionnette et puis qu'il fasse tout exactement comme vous lui avez dit, ça ne marche pas toujours comme ça. Mais il nous écoute. Et c'est ça, cette perle de grand prix que nos frères et sœurs, dans le monde musulman ou ailleurs, trouvent en trouvant Jésus-Christ. Vous savez, j'ai pendant de très nombreuses années eu l'occasion de visiter l'Iran. J'entrais avec des valises beaucoup plus lourdes qu'à la sortie, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est des centaines de personnes aujourd'hui qui en Iran lisent des Bibles que je leur ai apportées. Mais c'est incroyable de voir. On dit même, je ne peux pas le vérifier, je ne peux plus y aller. Mais on dit même que chaque famille élargie, dans chaque famille élargie, il y a un cousin, il y a une tante, il y a un neveu qui s'est tourné vers le Christ. Et c'est bien pour ça que les églises en Iran sont en ce moment très durement persécutées. Parce que le pouvoir n'aime pas trop ça pour le moment. C'est des gens qui leur échappent. Et alors qu'est-ce qu'ils vivent ces gens qui sont comme ça persécutés? La première chose, lorsque un chrétien, j'allais dire, fait son coming out, lorsque ça commence à se savoir, lorsque peut-être par hasard on le découvre, eh bien il va être, c'est pas forcément l'État qui intervient en premier lieu, mais il va être coupé de sa famille, coupé de ses amis. C'est une honte pour la famille élargie. C'est le déshonneur. Et on va essayer de tout faire pour les ramener à l'islam, mais s'ils refusent, eh bien on va couper les ponts pour se couper de ce grand déshonneur. Et puis comme ces sociétés-là, bien souvent, sont basées sur vous êtes employé dans une société non pas en fonction de vos capacités, mais en fonction de votre tissu de relations, eh bien, quasi immédiatement, vous allez perdre votre emploi. Si par hasard, vous aviez la chance d'être déjà propriétaire de votre, je ne sais pas, d'une boulangerie, d'un garage, quoi que ce soit, eh bien, on va faire toutes sortes, courir toutes sortes de rumeurs vous concernant, faire en sorte que vous ne perdiez pas votre emploi, mais votre clientèle. Quels bruits n'ont pas circulé encore en Iran, juste après l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir. Je crois qu'à ce moment-là, il y avait 2/3 des boulangers qui étaient des Arméniens. Et qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur ces Arméniens qui empoisonnaient leur pain pour etc., etc., etc. Et beaucoup ont dû fermer boutique. Vous allez être méprisés. Tout d'un coup, vous perdez votre statut social, parce qu'il faut bien réaliser que dans la conception musulmane, il y a tous ces, ce qu'ils appellent les polythéistes, si on pense aux hindous ou animistes, tous ceux qui adorent plus qu'un dieu, ceux-là, ils n'ont même pas le droit de citer dans l'islam. C'est soit ils se convertissent, soit ils disparaissent. Et puis après, il y a des gens un peu mieux que ceux-là quand même, c'est les juifs. Et puis s'ils ont compris un peu plus, alors ils sont chrétiens. Et puis s'ils ont vraiment tout compris, ils sont musulmans. Mais vous pouvez toujours monter la marche d'escalier, mais jamais redescendre. Et tout d'un coup, de quitter l'islam pour redescendre une marche d'escalier, c'est inconcevable. Ce qui fait que vous êtes aussi un peu considéré comme le traître. Parce que dans bien des pays, si vous pensez au Maroc, par exemple, le roi est un descendant direct de Mahomet. La même chose, tous ceux que vous voyez, tous les enseignants musulmans que vous voyez avec un turban noir dans l'islam chiite, en Iran notamment, c'est s'ils sont juste théologiens, ils ont le turban blanc. Mais s'ils sont théologiens et descendants de Mahomet, ça veut dire les saints des saints, seul le chef d'État ne peut pas le président, hein, mais celui qui dirige vraiment derrière Ali Khamenei, hein. L'autre, c'est juste un pantin qu'on met pour 4 ans ou 5 ans pour aller dire les choses qui sont désagréables à dire. Mais le véritable pouvoir, il est automatiquement attribué à quelqu'un qui est un descendant direct de Mahomet. Donc, si vous quittez l'islam, vous faites automatiquement affront au chef de l'État, en tout cas dans des pays comme le Maroc et l'Iran. Vous êtes un traître. Au Maroc, un chrétien converti, on l'appelle l'Européen. D'accord ? Il s'est tourné vers la religion des Européens. C'est un traître, traître à la patrie. Mais le pire que doivent vivre nos frères et sœurs d'origine musulmane, c'est quand ils ont été coupés comme ça de tous leurs proches, de tout leur réseau, tissu social, tout point d'appui se déroule sous leurs pieds, ils rentrent dans une église en se disant, ben là j'ai des frères et sœurs, et je ne parle pas des églises à Genève bien entendu maintenant, mais une église, prenez une église en Égypte par exemple, où depuis 1000 ans il s'est peut-être construit 4-5 églises, toutes les autres sont aussi anciennes que ça, 1000 ans. Ou pour obtenir un permis, le droit simplement de déboucher des toilettes ou de changer un petit quelque chose à votre église, vous avez besoin d'une autorisation spécifique du chef de l'État et vous l'obtenez jamais. Alors on ne parle pas d'en construire une nouvelle, ça c'est illusoire. Mais juste pour la maintenir, ils vous font les pires difficultés. Et quand en même temps, dans le même pays, on va dire, mais si vous accueillez des gens d'origine musulmane ici, des musulmans, on ne dit pas des gens d'origine musulmane, si vous accueillez des musulmans ici, on détruit, on rase votre église. Mettez-vous à la place du pasteur et des anciens. Est-ce que je les accueille ou pas? Et bien souvent, nos frères et sœurs doivent rester dehors, sont rejetés. C'était bien de ça dont parlait ce film auquel je faisais allusion tout à l'heure. Rejeté et par les siens et par ceux qu'on croyait trouver. Heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui font le pas, quelques-uns qui organisent des rencontres de maison, quelques-uns qui organisent des grandes rencontres. Mais la plupart du temps, un converti d'origine musulmane n'aura jamais l'occasion de vivre un temps de louange comme vous l'avez vécu ce matin. Au mieux, ce sera une fois par année, à Chypre, à Malte, hein, on part pour quelques jours si on obtient le visa, parce que les visas sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et puis on peut se joindre à la grande assemblée. Il y a ce qui gagne, il y a ce qui perd, et puis il y a encore quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, nous. C'est tout l'apprentissage par lequel doivent passer nos frères et sœurs. Dans le sens, ils sont nés dans un contexte. Ils sont nés avec certaines choses qu'ils ont apprises depuis l'âge de 1 ou 2 ans. Hein? Souvent, ils n'ont pas 2 ans qu'ils savent déjà dire que tous les maux de la planète viennent des Juifs. C'est comme ça. Ils sont nés avec cette, comme je vous disais, cette notion de supériorité. Et il y a toutes ces choses qu'il va falloir réapprendre, apprendre au fond les valeurs de Dieu telles qu'on les trouve dans la Bible. Et il y a un certain nombre de valeurs qui vont devoir petit à petit changer et ça prend du temps. Et justement par rapport à ce, qui a quelle valeur, j'entends dernièrement un de nos amis de Portes Ouvertes, pasteur au Bangladesh, d'origine musulmane. Il y avait une réunion avec tous les pasteurs, la pastorale du Bangladesh, et il fallait choisir un responsable parmi eux. Et juste pour vous dire, au Bangladesh, environ 90% de l'église est d'origine hindoue et environ 10% est d'origine musulmane. Et les pasteurs sont à peu près dans cette proportion-là. Et voilà que c'est quelqu'un d'origine hindoue qui a été choisi comme responsable de la pastorale. Et cet ami a eu beaucoup de peine à encaisser cela, dans sa tête encore, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que quelqu'un d'origine musulmane. Ben, c'est normal, on est tellement supérieur. Et je me suis dit, est-ce que ça nous arrive, nous aussi, d'avoir de tels réflexes? Et j'ai repensé à nos missions africaines. La peine qu'on a eue, maintenant on y arrive. Mais de nommer un responsable noir en Afrique pour nos missions. D'avoir un directeur d'origine africaine pour diriger finalement une mission africaine. On a de la peine aussi. Donc, voyez, on a aussi, nous, des choses à apprendre. Hein. Je ne me mets pas en me disant, nous, on est en dessus, et puis eux, ils ont tout à apprendre. Une autre chose qu'ils doivent et qu'ils peuvent, heureusement, apprendre, c'est que justement, nous avons un Dieu de parole et que nous avons le droit de le confronter à sa parole. Quand vous êtes, pas dans la grande prière comme ça, mais quand vous êtes dans votre petit groupe de prière, et puis que vous en venez au moment crucial, certains appelleraient ça le combat spirituel, d'autres l'appellent, ils ne donnent même pas de nom, mais quand vous êtes dans ce cœur à cœur avec Dieu, est-ce qu'il ne vous arrive pas de dire, « Mais Seigneur, tu dis dans ta parole. » C'est vrai ou c'est pas vrai? On le fait. Hein? Nous avons cette liberté de confronter Dieu à sa parole. Et il est bon, notre Seigneur. Il se laisse confronter avec sa parole. Alors que nos frères et sœurs d'origine musulmane, ils ont depuis toujours été habitués à un Dieu qui n'a pas de parole. Qui un jour dit oui, un jour dit non. Et vous retrouvez ça même dans le Coran. Il faut être beaucoup de sagesse pour voir est-ce que c'est un verset qui abroge ou qui est abrogé. Enfin, voilà. Et même encore, la conclusion, quand vous écoutez des théologiens musulmans, c'est qu'ils ne savent pas. Qu'ils ne savent pas, finalement, ce que Dieu décide et ce que Dieu dit. Et nous, même pas en tant que conseil, grand conseil religieux, mais en tant qu'individu, nous avons cette liberté de prier et de confronter Dieu à sa parole. Et puis dans les choses qu'ils vont devoir apprendre, ben c'est aussi à se libérer de certaines anciennes habitudes. Je pense à cet ami aussi d'Algérie qui avait fait toutes ses années d'études pour devenir imam et qui s'est converti le dernier mois, à la fin de ses études. Et qui, il a son papier, mais il n'est jamais devenu imam. Et je l'ai croisé 9 ans après cela. 9 ans qu'il n'a pas. Et il me disait, tu t'imagines pas, mais chaque fois que j'entends l'appel à la prière, je dois m'accrocher pour pas y aller. Chaque fois. Et ça me faisait penser à certains qui ont eu de la difficulté à se libérer de la fumée. Pour certains, ça s'est passé comme ça. Et puis pour d'autres, je connais un autre, c'est marrant, ça faisait aussi 9 ans. Il me disait, 9 ans après avoir posé mon dernier paquet de cigarettes, je peux encore dans la rue suivre à la trace quelqu'un qui fume les gitanes bleues. C'était ça son paquet préféré à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais... Donc voyez, on est inégaux face à un certain nombre de choses. Pour nous, l'appel à la prière, peut-être que ça nous irrite lorsqu'on y est. Plusieurs de mes collègues, ça irrite. Moi, je ne les entends même pas, comme les cloches. Il y en a que les cloches, ça irrite, d'autres pas du tout. Mais pour de nos frères et sœurs, eh bien, cet appel à la prière, c'est quelque chose qui encore, à l'heure actuelle, est dit, non, j'appartiens au Seigneur Jésus, je n'irai pas à la mosquée. Et la dernière chose que j'aimerais vous laisser ce matin, et on va voir un film à ce sujet, c'est qu'ils doivent apprendre à pardonner. Parce que dans l'islam, le pardon, c'est... Bon, c'est des textes bibliques, hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Mademoiselle Kadhafi, la sœur, hein, quand elle est venue, on a vu toutes ces images à la télévision, hein. Quand elle est revenue chercher son frère et sa belle-sœur. Elle a dit à la face des caméras, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Hein, vous vous souvenez de ça? Ah ouais. Et il y a encore de Suisses qui sont toujours privés de, qui ne peuvent pas quitter la Libye actuellement. Hein, l'œil pour œil, il dure longtemps. Hein. Eh bien, nos frères et sœurs qui se tournent vers Christ doivent apprendre que c'est plus la loi du œil, dent pour dent. C'est lorsqu'on te fait du mal, tu pardonneras 77 fois 7 fois. Hein, vous vous souvenez de ce texte de Jésus, cette réponse de Jésus à Pierre. Eh bien, il y a des gens qui l'apprennent. Il y a des gens qui l'apprennent très bien, même cette puissance du pardon. Et c'est ce témoignage que j'aimerais vous passer maintenant. C'est une histoire qui nous vient d'Ouzbékistan. En Ouzbékistan, quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, il y avait au grand maximum 5 chrétiens d'origine ouzbek. Tous les autres, c'était des baptistes russes qui avaient été déportés là parce qu'on se disait qu'ils ne feraient pas trop de dégâts là-bas. Et puis, eh bien, pendant 2-3 ans, ils ont bénéficié d'une totale liberté. Il y a des Coréens et d'autres missionnaires qui sont allés là-bas pour annoncer l'évangile. Et puis, très vite, ça s'est refermé. J'ai eu l'occasion d'y aller en 1997. À cette époque-là, on comptait déjà 5 000 chrétiens d'origine ouzbek. Et aujourd'hui, ils sont 20 000. Mais ce que j'aimerais dire avec ça, c'est pas, vous savez, c'est pas 3 000 conversions style apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, formidable. C'est que s'il y a aujourd'hui 20 000 chrétiens d'origine ouzbek en Ouzbékistan, ils ont été gagnés un par un. L'évangile rentre un par un. Puis après, peut-être qu'il y a un témoignage à toute la famille, comme on va le voir là, dans ce film. Ça se fait pas sans difficulté. Ils doivent aussi se comporter parfois en chrétien de l'ombre, le cacher. On va en cachette à l'église, même si c'est moins terrible, on va dire, que peut-être dans d'autres pays du Moyen-Orient. Mais ça reste un pays où c'est difficile. Mais il y a des beaux fruits. Et c'est surtout ça que j'aimerais que vous reteniez en partant. C'est que tout ce qu'ils doivent apprendre, c'est possible de l'apprendre. Dieu est à leur côté. Et puis, ça porte des fruits pour sa gloire. Voilà, j'aimerais encore vous remercier pour votre attention. Merci pour l'invitation.